Vous savez, le Seigneur permet quelquefois qu'on arrive dans des textes. Et vous savez, à l'Assemblée, depuis des années, on fait verset par verset, on fait livre par livre. Et on arrive à 2008 avec l'Apocalypse, chapitre 16, et le temps des fêtes s'en vient. Et je pensais à tout ça cette nuit, puis je me disais, c'est important pour nous de bien saisir ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train d'observer la parole de Dieu. Nous sommes en train de réfléchir ensemble la parole de Dieu. On a vu la semaine passée, en fin de compte, dans le chapitre 15, cette introduction du chapitre 16, 17 et 18, jusqu'à 19, 10. C'est sept anges qu'on vient de lire qui ont des coupes de colère. Et nous sommes en train ensemble de voir, depuis qu'on a commencé l'Apocalypse, qu'on a vu ensemble les sept sceaux. Dans les sept sceaux, il y avait sept coupes, sept trompettes, c'est-à-dire dans les sept trompettes, il y avait sept vases, coupes de la colère de Dieu. C'est intéressant, le mot coupe, ce n'est pas des gros vases là, qu'on pourrait imaginer. Mais le mot littéral, c'était des petites coupes. C'est-à-dire très petit, assez pour prendre entre deux mains et marcher facilement avec. Donc, c'est des coupes symboliques qui nous est dit par Jean. On est dans une section, une sorte de parenthèse, où ça va nous amener jusqu'au retour du Seigneur Jésus sur la planète Terre. Ça nous parle des choses dans le ciel et ça nous parle des choses sur la terre. On va voir dans le ciel, dans le lieu très saint, comme qu'on a vu la semaine passée, il y a quelque chose de dramatique qui se passe là. Quelque chose d'extraordinaire, il y a de la fumée, il y a des bruits. Et la fumée représente la colère de Dieu, à fin de compte, qui est en train, là, dans le lieu très saint, en train de mener à bien les prophéties de l'Ancien Testament. On voit aussi que, tranquillement, nous allons arriver et nous allons voir dans le ciel, juste avant le retour du Seigneur, les noces de l'agneau. Et tranquillement, nous avançons. Et tranquillement, nous sommes en train d'observer la parole de Dieu et de voir les choses qui se passent. Puis j'aimerais qu'on soit clair ce matin. Jean a écrit l'Apocalypse, pas pour nous donner une connaissance et une sorte de carte dans qu'est-ce qui va arriver dans l'avenir, dans les petits détails. Et il nous donne un survol des choses qui vont arriver. Et lorsqu'il écrit, il n'écrit pas pour qu'on soit des sortes de devins. Il écrit pour nous donner des étapes concernant la planète Terre, concernant l'univers, concernant le monde visible et invisible. Et nous sommes en train de voir ensemble que Dieu est fidèle, Dieu est souverain, Dieu ne retarde pas dans ses promesses. Et on doit ensemble réaliser que lorsque Jean écrit dans le premier siècle, en 96 environ, qu'il va écrire l'Apocalypse, c'est un temps de grande persécution pour les chrétiens. Il y a des questionnements dans l'Église qui étaient là. Oui, mais quand est-ce que le Seigneur va venir? Quand est-ce que des choses vont arriver, la fin du monde va arriver? Quand est-ce que le Seigneur va intervenir dans la politique, dans la religion du monde, dans la manière que les gens gèrent la planète Terre? Quand est-ce que Dieu va faire ces choses? On voit alentour de nous des gens qui sont tués, des gens qui sont brûlés vivants, des gens qui sont maltraités, des gens qui vont en prison parce qu'ils croient en Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus fait à propos de cela? Qu'est-ce que Dieu fait à propos de cela? Et Jean lui-même, persécuté, qui a été exilé sur l'île de Patmos, Dieu lui donne une révélation. Savez-vous pourquoi? Pour l'encourager. Pour rappeler le peuple de Dieu que Dieu n'a pas oublié la planète Terre, que Dieu n'a pas oublié ses promesses, que Dieu n'a pas oublié et il va faire ce qu'il a dit. Soyons courageux dans les temps d'épreuve. Soyons courageux dans ces temps difficiles. Ce n'est pas parce qu'on regarde ce qui se passe dans le monde entier, que ce soit dans le crash de la bourse dans ce temps-ci. Il y avait un article hier sur le journal qui disait « C'est l'apocalypse ». Avez-vous vu ça, cet article-là? Parlant de la bourse. On entend parler de guerre et de bruit de guerre. Génocide. Des enfants. Avez-vous le film qui est sorti « Des enfants guerriers » Des enfants à la guerre avec des grosses mitraillettes. Des fois, tu te dis, ils ont pris l'argent pour acheter la mitraillette. Ils n'ont pas de quoi manger. Mais ils ont des mitraillettes. On regarde le G20 qui est en train de trouver une solution pour qu'est-ce qu'on vit, point de vue bourse, point de vue finance. On voit ce qui se passe à Ottawa, la brouhaha-bouche, tout le monde, la brouhaha-bouche. Des aises le monde. On entend Sarkozy qui dit qu'on doit refondre le capitalisme dans ses bases. Il est en train de se passer dans le monde qui nous entoure. Des choses uniques. Et nous savons très, très bien que dans le futur, pour que l'Antichrist imprègne son empreinte sur cette planète Terre, ça lui prend une monnaie globale, une politique globale et une religion globale. Et tout ce qui se passe en entour de nous, si vous le discernez, sans qu'il le sache, tous ces canaux vont vers la même place. Il y a un type aux Nations Unies qui a dit que ce soit un homme ou un diable qui vient régler notre problème, on va accepter la solution. Vous savez, quel privilège qu'on a de savoir que Dieu veille sur la planète Terre. On est devant ces coupes ce matin, et j'aimerais faire comme qu'on fait d'habitude, l'observation, observer le texte. Interprétation, application. Regardez ce texte et dites-vous une chose. Dieu, ce n'est pas un bouffon. Dieu, ce n'est pas un vieux pépère à barbe blanche qui a fait de l'Alzheimer. Dieu, ce n'est pas mon chum d'en haut. Dieu, c'est Dieu des cieux et de la terre, le Créateur du ciel et de la terre, et l'Apocalypse nous rappelle à qui on a affaire. Et ça rappelle au monde qui ont décidé de tricoter leur vie, leur société, leur politique, leur manière de vivre sans Dieu, ça leur rappelle qu'un jour, le propriétaire de la planète Terre, il arrive avec ses clés puis il ferme la boutique. Les humanistes vont vous dire non, Jésus c'est un bon exemple, Gandhi c'est un bon exemple, Bouddha c'est un bon exemple, puis ils vont vous dire que tout pivote en entour de l'un. D'autres vont vous dire qu'un tel est Dieu. Et on le reçoit dans les salons, il se promène avec des beaux foulards, puis c'est une majesté, c'est une divinité qu'on accueille. Il est en Europe, ça, cette semaine. Mais qu'est-ce que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit que Dieu est le Créateur souverain du monde visible et invisible. Jésus-Christ, Dieu lui-même, 100% Dieu, 100% homme, est venu nous emporter une bonne nouvelle. On est en l'an 2008, l'an de grâce. Mais comme dans le temps de Noé, les hommes vont faire du commerce, les hommes vont manger et boire, les hommes vont marier leurs enfants et un jour, un prédicateur va arriver pendant plus de 100 ans qui va annoncer « Sauvez-vous car il arrive un déluge! » Et seulement 8 personnes ont entré dans l'arche. Et qui a fermé la porte? Ce n'est pas Noé, c'est Dieu. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce qu'on a devant nous le plan de Dieu pour l'univers. 7 malheurs. On va prendre 2 semaines là-dedans. On va faire quelques-unes aujourd'hui et la semaine prochaine, on va terminer les coupes de malheurs. Si on regarde juste les photos, on voit que ce n'est pas fun du tout ce qui va arriver. Mais j'aimerais qu'on observe le texte. Comparé entre les fléaux décrits dans l'Exode, 6 des fléaux qu'on va voir, on les a déjà vus dans le temps de Moïse à l'Exode. Qui n'a pas vu la vue de Moïse? Levez la main. Qui ne l'a pas vu? On a tous vu ça, hein? Tu ne l'as jamais vu? Il faudrait que tu l'écoutes. C'est super bon. Quand on voit qu'il traverse la mer Rouge, qu'il y a les plaies qui tombent en Égypte, hein? Et puis là, Pharaon qui résiste, qui endurcit son cœur, 6 fois, il endurcit son cœur. Un moment donné, le non-retour arrive. C'est Dieu qui endurcit son cœur 4 fois. Puis en fin de compte, le peuple sort et est emmené dans le désert. Et on a là, Dieu nous donne là, un parallélisme qu'on va regarder ensemble. Regardez bien. Première coupe, c'est un ulcère. C'est une blessure maligne. C'est la 6e plaie d'Égypte, dans Exode 9, 8 à 12. C'est la même chose, un ulcère, comme dans le temps d'Égypte. Et si vous lisez ce qui est arrivé là, dans le temps d'Égypte, vous allez voir que les Égyptiens, ils ont paniqué, ôtez-vous de là. Une blessure maligne et pernicieuse. Deuxième et troisième coupe, c'est l'eau changée en sang. Quand Moïse a mis son bâton dans le Nil, c'est tout venu en sang. On a la même chose qu'on va voir tout à l'heure. On a la même chose dans les coupes 2 et 3. Il n'y a pas beaucoup de détails. Ça nous dit tout simplement ça. C'est la première plaie en Égypte. Les sources, la mer deviennent du sang. Et il y a un résultat de tout ça. Et lorsqu'on continue de comparer la 5e coupe et la 9e plaie d'Égypte, c'est les mêmes. C'est le ténèbre. Et on nous dit que dans le temps des Égyptiens, lorsque Moïse était là, il faisait tellement noir que vous mettiez votre main devant votre nez, puis vous ne la voyez pas. Avez-vous déjà été dans une place qui fait vraiment noir? C'est vrai, avez-vous essayé de voir votre main? On ne la voit pas. C'est en anglais « pitch black », du goudron, noir. Puis la 5e coupe. La 6e coupe, c'est les grenouilles. C'est la 2e plaie qui est arrivée en Égypte. Ces petits animaux, les grenouilles. Tu te dis en toi-même, « Wow, d'où ça vient? » Ça va arriver. Si on aurait dit aux Égyptiens, et même quand que Moïse était devant Pharaon, il n'y avait pas à... Pharaon, il ne croyait pas pantoute. « Ouais, toi, puis le Dieu des Hébreux, là. » Mais c'est arrivé. La 7e coupe, on voit la grêle. C'est la 7e plaie d'Égypte, la grêle. On a eu de la grêle, avez-vous vu ça, les années passées, on a eu de temps en temps, vous savez ce que c'est, ceux qui ont des autos dehors, puis qui ont des bosses, mais ça va être des gros motons de grêle. On va en parler plus tard de ça. C'est la même chose qu'en Égypte. Si autrefois Dieu avait frappé l'Égypte de plaies, c'est pour manifester sa gloire et obliger Pharaon à libérer le peuple d'Israël. Dieu avait une démonstration à faire à Pharaon. Il avait une démonstration à faire aux bons anges et aux mauvais anges aussi. Dieu démontre sa gloire et manifeste sa gloire, sa personne, avec ces plaies-là. Dans l'avenir, si on compare les deux, dans l'avenir, quand Dieu frappera le monde de plaies, il fera également éclater sa gloire et détruira le règne de l'Antichrist. Pour la même raison, parce que Dieu nous dit qu'il ne donnera pas sa gloire à un autre. Il est le seul Dieu créateur du ciel et de la terre. À lui seul la gloire et l'honneur. Lorsqu'on dit « glorifions Dieu », on ne se trompe pas. D'ailleurs, j'oserais dire qu'en 2008, ici, nous, ce matin, on a glorifié Dieu par notre adoration, par nos cantiques. Est-ce que le monde qui ne connaît pas Christ glorifie Dieu? Pas le Dieu de la Bible, à tous les cas. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Dans l'avenir, quand Dieu frappera le monde de plaies, il le fera également pour faire éclater sa gloire et détruire le règne de l'Antichrist. On est rendu, point de vue chronologique, dans les 42 mois, dans les 3 ans et demi. C'est ce que les commentateurs appellent la grande tribulation. C'est la fin. Et Dieu met le cadenas sur le système tricoté par les hommes pour gérer la planète Terre. Et ça va être global. Toutefois, les châtiments de l'Apocalypse du chapitre 16 auront une portée universelle.
Je vous pose la question.
Dans le temps d'Égypte, c'était-tu mondial l'affaire? C'était l'Égypte, le peuple des Hébreux. Voyez-vous? La différence entre les deux, même si ça ressemble 6 sur 7, la différence entre les deux, et c'est un des arguments lorsqu'on est futuriste et qu'on sait que le millénium s'en vient puis Jésus revient, c'est l'argument, c'est que anciennement, des choses étaient contenues pour quelque chose de spécifique, et dans les derniers temps, les choses sont universelles, globales. Qui n'a pas entendu ce mot-là dans les nouvelles dernièrement? Avez-vous remarqué? Puis je vous lance un défi. Prenez en note toutes les nouvelles, et pas toutes les nouvelles, c'est trop, mais prenez en note le mot global de la bouche des intervieweurs. Prenez global dans le mot global dans la bouche des gens qui font l'actualité présentement. Le mot sort de plus en plus. On est à une époque planétaire. On est dans une époque où la perception, la lecture du monde alentour de nous, c'est plus notre petit village. C'est global. Avez-vous remarqué? Vos rentes sont investies d'une manière globale. Et c'est pour cela que quand les États-Unis ont planté, point de vue financier, c'est pas juste les États-Unis qui ont planté. Tokyo a planté, l'Australie a planté, l'Angleterre a planté. Puis le Canada est en train de planter. C'est global. Et c'est exactement cela qui arrive. On est dans ce monde présentement qui s'en va vers des solutions globales, des activités globales, des ententes globales. Et vous allez entendre de plus en plus cela. Et cela va rejoindre le fait que dans les 7 dernières fléaux, ces 7 coupes, ils ont cela en commun avec ce que nous percevons qui s'en vient, c'est un contrôle global, par une armée unique globale, par un financement global, par une philosophie globale, par une politique globale. Et c'est cela qui démontre que le Seigneur a prévu ces choses-là. Les jugements des coupes et ceux des trompettes visent les mêmes objectifs. Première trompette qu'on a vue, chapitre 8, vise la terre. Regardez ça. Première coupe vise la terre. Deuxième trompette, deuxième coupe, la mer. Troisième trompette, troisième coupe, les rivières. Quatrième trompette et quatrième coupe, le soleil. Regardez, la terre, la mer, les rivières et le soleil. Êtes-vous un extraterrestre? On tire notre existence de la planète Terre, de la terre, de la mer, des rivières et des sources d'eau, et le soleil. Enlevez ces choses-là, et l'existence sur la planète Terre n'est impossible. Impossible. Ce n'est pas juste une démonstration d'un tremblement de terre quelque part. C'est global. Ça va être global. Et c'est ce que Jean nous révèle. Jean dit aux chrétiens de l'époque, paniquez pas. Ça, il dit ça au premier siècle. Il y a des choses terribles qui vous arrivent. Mais dites-vous une chose, Dieu est en contrôle. Dieu sait ce qui s'en va avec la planète Terre. Puis en 2008, on doit se rappeler de la même chose. Dieu ne retarde pas les promesses qu'il a faites. Il revient bientôt. Mais il use de patience envers vous, afin que vous ne périssez point. Et l'appel, dans ces années de grâce, au pied de la croix, pour accepter Christ comme sauveur personnel, est très actuel, mes amis. Aujourd'hui, peut-être qu'il y en a ici, qui sont ici ce matin, sont angoissés par la bourse, hein, la descente de la bourse. Peut-être que vous avez investi, puis là, vous pensiez avoir toutes sortes de choses suite à cela, puis vous voyez ça fondre comme neige au soleil. Et on écoute les interviews à la télévision, tout ça, tu vois, les gens paniquent. Lorsqu'on entend que l'Iran peut avoir la bombe atomique, paniquez-vous. Croyez-vous que Dieu n'est pas au courant de tout ça? Est-ce que nous suivons le prince de paix ou non? Oui ou non? Qui qu'on suit? le prince de paix. Le monde est perturbé alentour de nous, mes amis. Nous, on parle d'une bulle évangélique, on parle à des chrétiens, puis on s'encourage. Allez faire une petite excursion, puis écoutez parler les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Écoutez le pessimisme qu'il y a là. Que ce soit la politique, que ce soit l'argent, que ce soit la moralité même. Les gens sont découragés. Et nous avons une bonne nouvelle pour ces gens-là. Cinquième trompette, c'est le trône de la bête. Parce que il va y avoir un homme, l'impie, celui qui se dit lui-même Dieu qu'on a vu dans le passé. Lui va régner pendant 3 ans et demi. Et lui va être détruit. Dieu intervient. C'est-à-dire que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean nous dit que le monde entier gît sous la puissance du malin. Et l'image qui est employée là, dans les dictionnaires, c'est que le monde entier est comme une marionnette dans les mains de Dieu. Il y a des émissaires, il y a des prédicateurs, il y a des docteurs, il y a des scientifiques, il y a toutes sortes de monde à sa solde. Il les récompense énormément. Et on s'en va présentement avec une manière de voir la vie, la mort, manière de voir l'homme, manière de voir la femme. Puis on a inventé d'autres sexes qui n'est pas dans la Bible. Mais tout est perturbé. Et Dieu va détruire le système de ce monde, le système de Caïn, à partir de Genèse 4, qui a été construit. Dieu, dans les chapitres qui s'en viennent, va détruire un par un ces systèmes de pensée, cette manière de vivre. Et ceux qui tirent leur existence de la terre seuls vont réagir à tout cela. Et c'est ça qui est le point à ce matin que je vais me rendre là. Sixième trompette qu'on va voir la semaine prochaine, c'est l'Euphrate, la sixième couple. Septième trompette, c'est la planète entière qui est l'emphase est mise, que ce n'est pas l'Égypte, que ce n'est pas juste les Égyptiens et les Hébreux, mais c'est la planète entière. Car dans les derniers temps, on va entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Entendre parler. Entre moi et vous, là, on entend-tu parler dans cet incite de toutes sortes d'affaires? Il arrive n'importe quoi, n'importe où, on le sait tout de suite. Pas vrai? Hein? Faites un petit oui-oui. Hein? Alors moi, je vous écoutais pas à TV, je vous écoutais pas les nouvelles. J'en connais qui écoutent pas les nouvelles. C'est correct. On va les écouter, nous autres. On va faire comme Isicar qui étudiait les temps et les nains. Qu'est-ce qui se passe en entour d'Israël? Il y en avait 250 dans cette famille-là. C'était une spécialité. Il regardait ce qui se passait. Mais comprenons, là, à quelque part, la planète entière. Planète entière. Les fléaux de l'Apocalypse 16 dénotent cependant une progression évidente par rapport aux précédents. 8, ça arrivait, et là, ça se précipite. C'est le temps, c'est la vitesse à laquelle les choses vont arriver dans 42 mois qui fait la grosse différence. L'accélération. Parce que c'est énorme ce qui va arriver, là, dans 3 ans et demi, là. Toute la destruction là, de tout ce qu'il y a là. Vous êtes inquiète pour la pollution, cassez-vous pas la tête. Le Seigneur est fini avec la planète, ça va être encore pire que ça. Les jugements des trompettes auront touché le tiers de la terre, le tiers des créatures marines, le tiers des eaux, et le tiers du soleil et le tiers des hommes. Tandis que, alors, lorsqu'on arrive dans les coupes, qui est les 7 derniers fléaux, alors que les jugements des coupes toucheront la terre entière. Et c'est ça l'argument futuriste. Ce n'est pas un petit bout de la planète. Ça va être global. Remarquez le mot global qui sort des nouvelles. Global, planétaire. On ne peut plus dire, je m'en vais dans mon coin et régler mon affaire tout seul, comme pays. Tu es connecté avec la bourse partout. Vous savez, on dit, frère, il y a une monnaie unique. Entre moi et vous, elle existe-tu, la monnaie unique? Elle existe? Peut-être pas au niveau de la pièce, mais elle existe au niveau de la bourse. Et là, on ne la voit pas. C'est pas parce que vous avez une pièce de papier différente que l'américain qui n'est pas connectée ensemble, cette pièce de papier-là. Vous la voyez monter, la pièce, puis descendre? Alors, c'est ça, tout le système planétaire. Puis on a le privilège de vivre dans une époque où c'est comme cela. On est des chrétiens qui s'informent. Puis en même temps, on croit Dieu, puis en même temps, on ne panique pas, parce qu'on sait que Dieu a le dernier mot. Jésus dit cela, Luc 21, 25, 26. « Il y aura des signes dans le ciel, dans le soleil, excusez, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations. » Et en passant, le mot « nation », c'est chez les races. Parce que dans les derniers temps, ce qui est encore une ligne, une chose très intéressante, lorsque Matthieu nous parle « nation contre nation », littéral, c'est « race contre race ». Si on additionne un et un font deux, une race haït une autre race. Une race, ça ne sera plus un pays avec des soldats, avec un habit, et puis un autre pays avec ses soldats puis un habit qui s'affrontent. Ça ne sera plus ça, les guerres, là. Ça va être une race qui attaque l'autre race. C'est tribal. C'est pas ça qu'on veut. Avoir marqué. Et c'est ça que le Seigneur est en train de dire, ça. Il y aura de l'angoisse chez les nations, sur les races, qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Alors, retenez ça, la mer et les flots. Les vagues qui vont apporter sur la plage des cadavres, selon les coupes qu'on va voir. Les hommes rendront l'âme de terreur, mourir de peur et d'angoisse, se suicidant. Savez-vous combien est-ce que tu suicides par semaine? 7. C'est pas sûr qu'il faisait de se rappeler. C'est comme les jours de la semaine. Il y a 2050 enfants abandonnés par année par leurs parents. Alors, c'est des statistiques, en tout cas. C'est terrible ce qui va arriver. Dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Et notre premier texte de Apocalypse 16, 1 nous dit exactement ça. Ça se passe en haut, il y a la boucane, il y a les voix, il y a l'ordre de Dieu de déverser les coupes, et ça brasse en haut, puis ça brasse en bas. Parce que Dieu, quand il est mort sa croix, il a tout réconcilié, Éphésiens 1, hein? Les choses d'en bas et les choses d'en haut, parce que le ciel même a été souillé par Satan. Et Dieu va recréer toutes choses nouvelles. Nouveaux cieux, nouvelle terre, qu'on va voir plus tard. Donc, toute cette observation nous amène à Luc 21, 27, qui dit, « Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec, avec puissance et une grande gloire. » Et la fin de notre parenthèse, dans Apocalypse 19, 11, elle commence là. 19, 11 dit, « Jésus revient, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le cheval blanc revient fermer la planète Terre complètement. » Maintenant, on rentre dans notre parenthèse. Okay? Il faut savoir que venir jusqu'ici, aller jusque-là, Dieu a préservé l'équilibre de l'univers par des lois établies dès l'origine pour le bien de l'homme, sa créature et par amour pour lui. Ce n'est pas la première fois que l'être humain est capable de faire sauter la planète Terre. Vous savez ça? Souvenez-vous. 52, la guerre de Corée, la bombe atomique, la dépression chez les humanistes, la possibilité de l'homme de détruire la planète Terre. Ce n'est pas arrivé. C'est-tu parce que l'homme est bon, l'homme est compréhensif et l'homme sait s'harmoniser avec ceux avec qui ils ne sont pas d'accord? Non, non, c'est parce que Dieu est intervenu. Il a empêché la Terre de sauter. C'est la même chose avec l'Iran. Pensez-vous que même si l'Iran a une bombe atomique, pensez-vous que Dieu ne contrôlera pas ça? Comprenez-vous? Dieu t'en contrôle la destinée de l'univers. Et si vous, les croyants, vous ne le croyez pas, vous allez être des gens angoissés et vous allez mourir de terreur. Dieu t'en contrôle. Comme dans le passé. Dieu contrôle. Daniel nous le dit, les prophètes nous le disent de l'Ancien Testament. Dieu contrôle les dominations, les rois sur cette terre. C'est dans ses mains. Et il va mener. Et c'est là qu'on doit réaliser la gloire et la souveraineté de Dieu. Dieu va mener l'univers. Là où ce qu'il a vu, elle va arriver là. Dieu va faire en sorte que les choses dans les cieux et les choses sur la terre arrivent là où il les veut. Le diable ne peut rien changer au plan de Dieu. Mais le problème, c'est que nous, on essaye d'imposer à Dieu notre propre plan. Dieu a un plan. Soyons calmes. Prions. Fortifions-nous. C'est pour ça, la semaine passée, j'ai insisté sur les attributs de Dieu. Si on ne comprend pas les attributs de Dieu, lorsqu'on voit les jugements qui arrivent sur cette planète Terre, notre première pensée, c'est « Pourquoi tu fais ça? » Il va y avoir des enfants dans ça. Il va y avoir du monde qui n'a pas entendu parler de Jésus. Et là, on va questionner la compétence de Dieu avec la manière qu'il va gérer l'univers. Ce qui est important de réaliser ensemble ce matin, c'est que Dieu, dans sa sagesse, sait où ce qui s'en va avec la planète Terre. Nous avons un mandat, une commission de sa part, jusqu'à son retour, qui nous dit « Allez par toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. » En attendant, au lieu de paniquer, on doit partager la bonne nouvelle à ceux qui sont autour de nous. C'est ça qu'il faut faire. Et ça, ça nous rassure en ce qui concerne notre avenir. Comme Église, l'avenir du monde. Et ça nous dit ce qui va arriver. Dans le lieu très saint, très important, dans le lieu très saint, une voix forte qui vient du temple. Cette voix est là. Et la question, comme je dis, comment concevoir qu'un Dieu d'amour puisse envoyer des messages de malheur? Apocalypse 8, 13, il y a trois malheurs. On est au troisième présentement. Dieu est un Dieu juste, un Dieu saint, un Dieu d'amour, un Dieu compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Et trompez-vous pas sur les mots. Dieu n'est pas un bonasse, Dieu n'est pas un maillet, Dieu n'est pas quelqu'un qui est incompétent, Dieu sait ce qui s'en va, il est souverain. Et regardez l'attitude des gens. Première coupe, l'ulcère malin, ceux qui avaient la marque de la bête. Ceux qui étaient protégés par Dieu n'étaient pas frappés de l'ulcère. Deuxième couple, regardez, tout être qui vit dans la mer. Pensez-y, là. Toutes les bébites de la mer meurent. Le frigo qui nourrit le monde dans certains pays. Troisième coupe, les sources d'eau. Et j'attendis l'ange des eaux qui disait, et voici ce que Jean nous rappelle, « Tu es juste. » Êtes-vous capable de dire ça? « Tu es juste, toi qui es et qui étais. Tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. » Dieu est juste lorsqu'il juge ce monde qui a décidé de vivre sans lui et donner la gloire aux hommes plutôt qu'à Dieu. Dieu est juste. Je sais qu'il y en a peut-être des gens ici qui veulent concilier l'humanisme, réformer les gens. Ça ne se réforme pas un être humain. Il doit naître de nouveau. Il doit avoir une nouvelle nature en lui qui s'appelle le Saint-Esprit. Il doit être celui qui va naître et grandir pour Dieu, un pas à la fois. Il faut savoir que Dieu est juste et Dieu est saint. C'est ce qu'on dit dans le ciel. Regardez, car ils ont versé le sang des saints, parlant des saints martyrs qu'on voit, qu'on a vu les semaines passées, et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Regardez ce qu'elle veut dire. Ils le méritent. C'est fort, hein? Avez-vous oublié Galates 6, 7? On ne se moque pas de Dieu. Ce que tu sèmes, tu vas là, récolter, le moissonner. Comprenez-vous? On est dans un temps démocratique, on est dans un temps où ce que tout doit être bénin. Mais savez-vous qu'il y a un temps pour dire c'est assez? Puis Dieu dit c'est assez, là. Regardez, verset 7. Et j'entendis un autre ange qui... Un autre ange qui, de l'autel, disait, « Oui, Seigneur, là, il est dans le lieu très saint. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » Dans le ciel. Pas pour rien, je dis ça. Dans le ciel. Quatrième coupe, regardez l'attitude des hommes. Regardez ce qui se passe sur la terre. Ils blasphèment le nom de Dieu, ne reconnaissent pas l'autorité de Dieu, ne se repentent pas et ne donnent pas gloire à Dieu. L'homme continue à être l'homme sans Dieu, même avec tous ses jugements. Ceux qui vont se repentir, ils vont mourir pour leur foi, excepté les 144 000 qui ont été marqués de Dieu pour être comme des sortes de bélligrammes dans ces années-là. Et les hommes qui ont adoré la bête, qui sont dans le système, vont continuer comme ils le font aujourd'hui. Dénaturer Jésus-Christ, blasphémer Jésus-Christ, blasphémer Jésus qui est le Dieu créateur du ciel et de la terre, blasphémer Dieu, pas reconnaître son autorité, les hommes vont s'endurcir, vont s'endurcir, vont s'endurcir. L'homme naturel, ça prend le miracle de la nouvelle naissance pour changer son cœur, pour lui donner une nature divine. Ça prend la nouvelle naissance. Regardez la cinquième coupe. Les ténèbres sur le trône de la bête. Joël nous dit, « Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du grand jour de l'Éternel, de ce grand jour redoutable. Parce que le monde qui auront placé toute leur foi et toute leur, qui auront donné toute la gloire à l'Antichrist, vont se tourner vers lui pour la solution. Il n'y en aura pas de solution parce que le trône même de l'Antichrist va être détruit. C'est la fin. C'est le propriétaire de la planète Terre. Celui qui a créé le monde visible et invisible vient mettre fin à la folie des hommes sans Dieu. L'attitude des hommes. Regardez, vous terminez l'attitude. C'est très important. L'attitude des anges dans le ciel. Tu es juste. Tu es véritable, tu es saint, il le mérite. C'est des vases de la colère de Dieu que Dieu a gardés depuis le début. Et qu'est-ce que les hommes font? Ils se mordent la langue de douleur, mais ils ne se repentent pas. Ils blasphèment le Dieu des cieux à cause de leur douleur et de leurs ulcères. Parle-moi, puis vous, même aujourd'hui, on rencontre des gens qui vivent des choses difficiles. Je ne sais pas pourquoi il permet ça, là, s'il existe, là, pourquoi il y a des enfants abusés, là. Pourquoi qu'il y a des ici, puis pourquoi qu'il y a des ça? Avez-vous entendu ça déjà? Hein? Ben c'est ça. Les hommes vont continuer de la même manière. Mais savons-nous que Dieu va emmener en jugement tout homme et toute femme? Et ce qu'on fait de mal dans le secret va être en lumière? Pas pour les croyants, pour les non-croyants aussi. Ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Pas de repentance. Continuent à blasphémer Dieu. Ils souffrent énormément. Ils se mordent la langue. À force que ça fait mal, pas avoir un mal équivalent. Mais ils sont encore en rébellion contre Dieu. À cause de leur nature pécheresse, à cause du refus de l'Évangile qui va être annoncé par les 144 000 de ces 42 mois, les hommes endurcissent le cœur. Est-il difficile pour vous de voir l'agneau qu'on va célébrer? On a une belle chorale qui s'en vient, je vous invite tous, ça va être merveilleux, qui va parler du Sauveur. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Frères et sœurs, chers amis, sachez que l'agneau revient en lion. L'agneau qui est venu va revenir en lion. Et va prendre le droit de propriété de la planète Terre et va accomplir la destinée que lui a pour l'humanité et les planètes, les choses visibles et invisibles. Si vous tournez dans Actes, je vais terminer avec ça. Tournez dans Actes 17, s'il vous plaît, verset 30. Quand j'ai mis la main sur cette prédication de l'apôtre Paul, j'ai réalisé, en étant dans l'Apocalypse, Dieu lui a révélé des choses extraordinaires à Paul. Il y a plus de 21 doctrines dans ça. Mais le verset 30 du chapitre 17 des Actes, nous lisons ceci. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes
tous les hommes, en tout lieu. Ça veut dire quoi? Planétaire. La bonne nouvelle est une nouvelle planétaire. On est dedans. On est dans le temps des Actes des apôtres. Qu'est-ce qu'il dit aux hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir? Avez-vous vu le futur? Les hommes refusent de se repentir. Ils refusent de se repentir. Ils vont continuer à blasphémer Dieu. Mais aujourd'hui, si vous entendez sa voix, on est dans l'an de grâce 2008. Aujourd'hui, le message est la repentance à tout homme, toute femme du monde entier. Puis regardez la perle qu'il y a là, verset 31. Regardez la perle. Parce qu'il a fixé un jour. OK? On est averti là, en 2008. Car Dieu a fixé un jour où il jugera le monde. C'est quoi le prochain mot? Entier. Paul va rejoindre Apocalypse 16. Paul nous avertit qu'un jour, le monde va être jugé. Dieu a fixé un jour. Et ça ne me fait rien si vous pensez que je suis en train de dramatiser ou je ne suis pas en train de faire des ultimatums. Je suis en train de vous dire la vérité qu'il y a dans la parole de Dieu. C'est vrai que Dieu a fixé un jour. On ne sait pas l'heure ni le temps. On peut voir les époques, grosso modo. Mais il va arriver un jour. Un jour. Regardez Paul. Il jugera le monde selon quoi? La justice. Il dit la même chose que les anges disaient dans le ciel. Tu es juste. Tu es saint. Il le mérite. Il y a un jour où la colère de Dieu s'accomplit sur la planète Terre. Arrêtez de voir Dieu comme un Dieu bonbon. Un pépère à barbe blanche. C'est un Dieu qui est un Dieu souverain. Un Dieu qui est glorieux, c'est l'Éternel des armées. Et ça nous dit même qui a prononcé les mots dans le lieu très saint. Il a choisi un homme. Il a choisi un homme. Selon la justice, par l'homme qu'il a désigné. Et c'était très fort ce mot-là. L'homme qu'il a désigné. Comment est-ce qu'il a désigné? C'est donc qu'il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Tout jugement a été mis des mains de Jésus-Christ. Si vous voyez l'observation du texte, c'est pas... Chapitre 16, il y a une voix dans le ciel qui dit, « Allez-y, déversez les coupes de colère. » Jésus, un jour, va juger les morts et les vivants. Est-ce que ça va changer votre vie demain matin, ça? J'espère que oui. Un, pour nous chrétiens, ça nous rappelle qu'on a une bonne nouvelle pour nos contemporains. On est dans une époque où c'est urgent. Un message qui est une question de vie ou de mort. Un message compréhensible qui est très simple. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Est-ce que ça nous rappelle que nous sommes, nous, comme Église, en mouvement, les porte-paroles pour Dieu dans un monde qui périt? Pour vous qui ne connaissez pas le Seigneur, est-ce que ça ne sonne pas une cloche chez vous ou est-ce que vous devez prendre position? Accepter Christ comme sauveur personnel? Est-ce que chez vous, ça sonne pas une cloche que l'humain, avec la manière qui rode la planète, qui gère la planète, est en train de tout saboter? C'est évident. Mais le propriétaire de la planète Terre, un jour, va venir fermer la boutique. Et c'est ce qu'Apocalypse prions. Seigneur, on veut te demander ta grâce pour chacun de nous. C'est des passages qui sont terribles. C'est des passages qui nous dépassent. on voit la souffrance humaine, on voit la rébellion humaine, on voit le blasphème humain, on voit les hommes qui refusent de te reconnaître comme le Dieu créateur du ciel et de la terre. Et Seigneur, nous voulons pour nous aujourd'hui, en 2008, te prier que personne qui quitte ici ce matin, sans qu'il ait fait un face-à-face avec le Sauveur, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Seigneur, on remet chacune de nos vies entre tes mains et que ton nom soit glorifié dans nos cœurs, dans nos pensées et dans nos vies. Amen. Amen.